9h sur France Culture. Restez à l'écoute, le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est elle qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes. La taxe carbone revient au cœur du débat avec la tribune signée ce matin dans le Figaro par 86 députés de la majorité, mais pas seulement. Emmenée par Mathieu Orphelin, qui a quitté le groupe En Marche à l'Assemblée il y a une semaine, ces 86 députés signent donc une tribune, un plaidoyer pour une fiscalité carbone équitable, une taxe juste socialement. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Selon ces 86 députés, à quelles conditions la fiscalité écologique pourrait-elle être acceptée par tous les Français?
Alors qu'elle soit à l'avenir juste et lisible, quand la taxe carbone était considérée par les Gilets jaunes au début de leur mouvement comme injuste, non transparente et perçue comme un impôt de plus employé à minima à lutter contre le réchauffement climatique. Les 86 députés qui signent cette tribune en sont convaincus. Cette fiscalité écologique, si elle est bien expliquée, redistribuée aux plus modestes aussi pour les aider à investir dans les énergies vertes, à se passer des énergies fossiles, à redistribuer aussi à 100% bien sûr, comme cela est le cas dans certains pays où cette taxe carbone existe, il n'y a pas de raison que les Français n'en acceptent pas le principe, comme le font ces députés de tous bords qui réclament donc une fiscalité carbone juste socialement. Pierre-Yves Bournazel, ancien député Les Républicains, aujourd'hui chez Agir, estime que cette question dépasse largement les clivages politiques.
Ce sont des députés qui ont une conscience écologique forte, qui peuvent venir de n'importe quel parti politique. Moi, je suis député Agir les Constructifs. Mathieu Orphelin a été, jusqu'à la semaine dernière, député marcheur. C'est pas notre étiquette politique qui compte. C'est notre conviction qu'il faut transformer profondément nos modes de production et de consommation, parce que c'est l'avenir de notre planète, c'est l'avenir des nouvelles générations qui est en jeu, et que c'est pas un défi qu'on peut écarter. C'est pas une conjoncture, quelle qu'elle soit, qui doit nous faire oublier l'objectif majeur de cette transformation. Et ça peut se faire que s'il y a une volonté politique.
Alors l'initiative de ces 86 députés est bien vue de la part du gouvernement, qui plaide pour un retour de cette taxe carbone, à l'exception notable de Bercy, qui redoute une nouvelle crise d'angoisse fiscale.
Véronique Rebérotte. Après 13 samedis de mobilisation des Gilets jaunes, élus et commerçants de grandes villes comme Toulouse, Bordeaux ou Lille appellent l'État au secours et réclament de nouvelles aides d'urgence. Ils seront reçus aujourd'hui par le gouvernement car, disent-ils, les dégradations commises par les casseurs commencent à peser sur le budget des municipalités et des commerçants. Une première enveloppe de 3 millions d'euros a déjà été débloquée. On va trouver maintenant des solutions ville par ville, a indiqué hier le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Hier, la Confédération des petites et moyennes entreprises a estimé que le mouvement des Gilets jaunes avait provoqué une catastrophe pour les petits commerçants, avec 70 000 personnes qui se retrouvent en activité partielle. Le projet de loi de santé est présenté ce matin par Agnès Buzyn en Conseil des ministres. Trois grands volets. Un virage numérique avec la dématérialisation des ordonnances, la labellisation de 500 à 600 hôpitaux de proximité, des établissements davantage en lien avec la médecine de ville, sans chirurgie ni maternité, mais avec quelques consultations de spécialité, une attention particulière apportée à la gériatrie, et puis la réforme des études de santé avec la suppression du numerus clausus à la fin de la première année de médecine. Le projet de loi santé doit être adopté d'ici l'été, mais son contenu sera en grande partie précisé par décret et ordonnance, ce qui inquiète certains médecins et des élus locaux. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a été inculpé cette nuit de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie, plus de deux semaines après avoir été arrêté. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'un de ses avocats. Ces inculpations lui ont été signifiées par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé, au grand dam des partisans donc de l'opposant Maurice Kamto. Aux États-Unis, la fin d'un procès hors norme, celui de Joaquin Guzman, alias El Chapo, considéré comme le plus important narcotrafiquant depuis Pablo Escobar. Cet homme de 61 ans a vécu 3 mois de procès, plus de 30 heures de délibéré, et il a été retenu coupable hier à New York de 10 chefs d'accusation. Il devrait être condamné à la perpétuité, et ce procès a permis comme jamais de lever le rideau sur le trafic international de drogue. S'est félicité hier le procureur fédéral. Les précisions à New York de Loïc Loury.
Des cascades de pots de vin et des assassinats en série, voilà les deux piliers du cartel de Sinaloa, le prix à payer pour faire passer en 25 ans 150 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Au cours du procès, une soixantaine de témoins ont raconté les coulisses de ce trafic et notamment la corruption. 300 000 dollars distribués chaque mois pour la seule ville de Mexico. L'argent arrosait le ministère de la Justice, la police des transports, jusqu'à l'organisation Interpol. L'ex-président Enrique Peña Nieto lui a toujours nié avoir reçu la moindre enveloppe. Derrière les magouilles, Il y avait aussi la guerre fratricide entre cartels, les règlements de compte, comme en 93, six morts dans une discothèque de Puerto Vallarta. El Chapo lui n'hésite pas à torturer, à assassiner lui-même ses rivaux, raconte l'un des témoins, et mène grand train au sommet de la pyramide. Avec la chute de Guzman, l'édifice ne s'écroule pas pour autant. Le co-dirigeant du cartel, Ismael Mayo Zambada, est toujours en fuite. La guerre de la drogue au Mexique, elle continue de faire chaque année des milliers de victimes.
Loïc Loury à New York pour France Culture. Le temps de ce mercredi 13 février, plutôt ensoleillé, une fois que la grisaille matinale se sera dissipée. Au meilleur de la journée, il fera entre 8 et 10 degrés sur un grand quart nord-est du pays, 10 à 12 dans le nord-ouest, 12 à 16 degrés sur la moitié sud. C'est la fin de cette édition réalisée par François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.